Roger Bion, au revoir.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro. Au sommaire de cette édition du jeudi 2 mai 2024. Au Niger, des djihadistes présumés ont détruit un pont dans le sud-ouest du pays. Les Tchadiens sont appelés aux urnes le 6 mai pour élire leur président.
On a pu entendre des tons montés de part et d'autre des candidats.
Le politologue Evariste Ngalem-Toldé nous dira dans la partie magazine les attentes sur ce scrutin. Au Kenya, le bilan des inondations s'alourdit à 188 morts depuis mars. Plus de 700 migrants débarquent au Royaume-Uni via la Manche, un record selon le gouvernement britannique. Ici aux États-Unis, la police démantèle les campements des pro-palestiniens dans les universités. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. On commence par l'actualité américaine. Ce matin, les policiers de Los Angeles ont interpellé des étudiants alignés portant des casques et ont démonté la barricade qui entourait le camp. Des affrontements avaient éclaté sur ce campus de la nuit de mardi à mercredi entre pro-palestiniens et contre-manifestants. Nathalie Barge.
Ce matin, les policiers de Los Angeles ont interpellé des étudiants alignés portant des casques et ont démonté la barricade qui entourait le camp. Des affrontements avaient éclaté sur ce campus dans la nuit de mardi à mercredi entre pro-palestiniens et contre-manifestants. À l'université du Texas à Dallas, la police est intervenue hier sur un campement de manifestants et a arrêté au moins 17 personnes pour intrusion criminelle. Hier également, environ 300 personnes ont été interpellés sur deux autres sites universitaires, selon la police de New York. La nuit précédente, les policiers avaient délogé des manifestants barricadés à l'université Columbia, déclarant que les manifestants se battent pour une cause importante et dénonçant des propos antisémites lors des rassemblements. La présidente de l'université, Minou Shafik, a expliqué que les actes de destruction auxquels se sont livrés des étudiants et des militants extérieurs ont conduit à recourir aux forces de l'ordre. Hier, la Maison-Blanche a condamné un petit pourcentage d'étudiants qui provoquent du désordre, selon les termes de la présidence. Mercredi également, au cours d'un meeting dans le Wisconsin, l'ancien président Donald Trump a considéré que New York était en état de siège et il a estimé que le président Joe Biden devrait s'exprimer sur la situation.
Après deux meetings de campagne, Donald Trump est retourné ce jeudi à son procès à New York qui a repris par un nouveau bras de fer autour de sa liberté d'expression en dehors du prétoire. Les procureurs y ont vu de nouvelles violations de l'interdiction de toute invective contre les jurés ou les témoins ordonnés par le magistrat pour les protéger d'éventuelles pressions ou intimidations. Plus de 700 migrants sont arrivés au Royaume-Uni hier sur de petits bateaux après avoir traversé la Manche, alors que le gouvernement britannique a érigé en priorité de mettre fin à ces traversées. Claire Morin-Gibou.
C'est un record pour cette année, selon les chiffres que le ministère de l'Intérieur a publiés ce jeudi. 711 migrants sur 14 bateaux ont traversé hier le bras de mer qui sépare la Grande-Bretagne de l'Europe occidentale. Le précédent record pour 2024, le 14 avril, avait vu 534 personnes effectuer cette périlleuse traversée. Et pour cette seule journée d'hier, il faut également rajouter 66 migrants, dont des femmes et des enfants, secourus mercredi au large de Dieppe, en France, alors que leur embarcation était en difficulté. Ils ont été ramenés à Dieppe, selon les autorités françaises. À quelques mois des élections législatives, le gouvernement conservateur britannique a fait une priorité de la fin de ces traversées de la Manche par des migrants. Une loi controversée, adoptée le 23 avril, vise à pouvoir expulser vers le Rwanda des milliers d'entre eux d'ici à la fin de l'année. Leur demande d'asile serait étudiée au Rwanda sans possibilité pour eux de revenir au Royaume-Uni, quel qu'en soit le résultat. En préparation de ces expulsions, la police a effectué de premières arrestations cette semaine de migrants en situation irrégulière.
Proche-Orient, une délégation du Hamas va se rendre prochainement en Égypte pour de nouvelles discussions sur un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a annoncé ce jeudi le mouvement palestinien. Cité dans un communiqué, le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, assure que le groupe étudie une proposition de trêve en cours de négociation, je cite, dans un esprit positif. Les pays de l'OTAN se sont dit aujourd'hui vivement préoccupés par les activités malveillantes de la Russie menées récemment sur le territoire de l'Alliance, qui constituent une menace pour leur sécurité. Les alliés dénoncent les activités étatiques hostiles ayant touché la Tchéquie, l'Estonie, l'Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et le Royaume-Uni. Il s'agit d'actes de sabotage, d'actes de violence, d'activités cyber et de perturbations électroniques, de campagnes de désinformation et d'autres activités hybrides, précise-t-il dans un communiqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité sur le continent, au Niger, des djihadistes présumés ont détruit un pont avec des explosifs dans le sud-ouest du pays, tentant probablement d'isoler une ville burkinabé située à quelques dizaines de kilomètres de l'attaque, a indiqué ce jeudi l'armée nigérienne. Rosine Munezero.
Lundi, en fin de soirée, des groupes armés terroristes ont détruit à l'aide d'explosifs un pont dans le secteur de Mosipaga, village situé à une centaine de kilomètres de la capitale nigérienne Niamey, a expliqué l'armée dans un bulletin. Mosipaga est également située à environ 9 km de la frontière avec le Burkina Faso. Selon l'armée, ces groupes armés tentent probablement d'isoler la ville burkinabé de Kantchari, à quelques dizaines de kilomètres de Mosipaga. L'axe Niamey-Ouagadougou sur lequel est situé Mosipaga est le principal corridor par où passait une partie du fret nigérien en provenance du port d'Abidjan, mais il est devenu impraticable depuis 2 ans en raison des violences des groupes armés. À Tillaberi, zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, plus de 30 000 personnes ont fui leur maison depuis janvier, selon l'agence onusienne OCHA à Niamey. Le Niger et le Burkina sont tous deux confrontés aux violences djihadistes depuis plusieurs années. Au Burkina, plus de 20 000 civils et militaires ont été tués et plus de 2 millions de personnes ont été déplacées.
Au Nigeria, 2 militaires vont être jugés par une cour martiale près de 5 mois après une attaque accidentelle de drone qui a tué des civils dans le nord-ouest du pays, a annoncé l'armée dans un communiqué publié aujourd'hui. L'armée n'a pas donné de détails sur l'identité des 2 militaires ni leur rôle dans l'accident. Cette attaque avait fait 85 morts et 66 blessés, selon les chiffres avancés à l'époque par les autorités. L'armée américaine prévoit de retourner au Tchad d'ici 1 mois pour discuter de la révision d'un accord qui l'autorise à maintenir des troupes basées dans ce pays, a déclaré mercredi un général américain. Le général Michael Langley, commandant des États-Unis pour l'Afrique, a fait des commentaires à la presse au Ghana lors du 2e sommet annuel des forces maritimes africaines. Il a indiqué que le retrait des troupes américaines du Tchad devrait être temporaire et que le Tchad avait fait savoir à Washington qu'il souhaitait poursuivre le partenariat en matière de sécurité après l'élection présidentielle dans ce pays. Le président kenyan William Ruto a nommé aujourd'hui Charles Murika Hariri nouveau chef des armées après la mort de son prédécesseur Francis Omondi Ogola dans un crash d'hélicoptère le mois dernier. Le président kenyan a par ailleurs nommé Fatuma Geti Ahmed à la tête de l'armée de l'air, la première femme dans l'histoire du Kenya à occuper ses fonctions. Au moins 188 morts, des centaines de blessés et des disparus. Tel est le nouveau bilan des inondations qui frappent le Kenya depuis mars, assure le ministère du Tourisme. Des centaines d'autres personnes ont été forcées de quitter leur maison. Nani Talani.
Depuis le début de la saison des pluies, de fortes précipitations, amplifiées par le phénomène climatique El Niño, provoque des inondations dévastatrices, entraînant la destruction de routes, ponts et autres infrastructures au Kenya. Le gouvernement affirme avoir déjà enregistré la mort de 188 personnes. Il fait état de 120 blessés, d'environ 90 personnes portées disparues et de 165 000 autres déplacés. Par ailleurs, une centaine de touristes ont été bloqués mercredi par la crue d'une rivière dont la célèbre réserve nationale du Maasai Mara, où des lodges et campements dédiés aux safaris ont été inondés et des ponts détruits. Plus de 500 employés sont privés d'emploi. Le président William Ruto annonce avoir mobilisé l'armée et ordonné l'évacuation des personnes vivant dans les zones à risque dans le pays. L'opposition et la société civile accusent le gouvernement d'impréparation et appelle à déclarer l'état de catastrophe.
Au Burundi, au moins 29 personnes sont mortes et des dizaines de milliers d'autres ont été déplacées depuis le début de la saison des pluies en septembre de l'année dernière, selon les Nations Unies. La principale ville du Burundi, Bujumbura, située sur la rive nord-est du lac Tanganyika, a vu plusieurs quartiers inondés et des routes et des ponts détruits. Et puis le parti islamiste Wasoul, nous sommes en Mauritanie, parti d'opposition, a annoncé ce jeudi la candidature de son leader Ahmad Ould Sid El Mokhtar à l'élection présidentielle prévue le 29 juin, une première pour cette formation politique. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Mali prévoit de produire 11 millions de tonnes de céréales au cours de la campagne agricole 2024-2025, soit 12% de plus que la campagne précédente, a annoncé mercredi le ministère de l'Agriculture, ajoutant que cette hausse sera tributaire des précipitations abondantes et bien réparties. Le Mali est le deuxième producteur céréalier de la région après le Nigeria et exporte ses récoltes vers les pays voisins. Cette année, la production céréalière au Maroc devrait baisser de moitié à 25 millions de quintaux contre 55 millions en 2023, poussant le pays vers davantage d'importations d'après la Banque centrale. Les faibles précipitations ont réduit la surface emblavée de céréales de 3,7 millions en 2023 à 2,5 millions d'hectares prévus pour 2024, assure la même source. Pour terminer, ExxonMobil se dit optimiste et va poursuivre son projet de gaz naturel liquéfié de Rovuma dans la zone offshore 4 au nord du Mozambique qui a été retardé. La société s'attend à une décision finale d'investissement fin 2025, a déclaré ce jeudi un responsable. Dans ce projet, Exxon dirige la construction et l'exploitation de la liquéfaction à terre et des installations connexes, tandis qu'Eni, son partenaire, se concentre sur le gaz naturel liquéfié flottant de corail et les opérations en amont.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Cyclisme avec le Tour du Bénin, troisième étape et troisième différent vainqueur.
Oui, cette fois c'est un Français de la team Bonheur, Victor Lebon, qui s'est imposé à Tiémet après 113,800 km de course au départ de Dija. Il a franchi la ligne d'arrivée au sprint en déposant respectivement l'Algérien Islam Mansouri et le Burkinabé Wahabou Bouda. L'Érythréen Yoel Habteb garde le maillot jaune à 2 secondes de l'Algérien Azedine Lagab. Demain, ce sera l'avant-dernière étape qui va se courir entre Ouilly et Porto Novo, longue de 97,170 km, la plus petite distance du Tour.
Le PSG s'incline en demi-finale aller de la Ligue des champions en Europe.
Le Paris Saint-Germain a été battu 1-0 sur le terrain du Borussia Dortmund. Les Allemands ont marqué à la 36e minute par Niklas Füllkrug, parti à la limite du hors-jeu pour battre Gianluigi Donnarumma. Le Marocain Achraf Hakimi a disputé toute la rencontre avec les Parisiens. Côté Dortmund, l'Ivoirien Sébastien Haller, qui revient de blessure, n'a pas joué. Le match retour se jouera mardi prochain au Parc des Princes. Malgré de nombreuses erreurs techniques, les Parisiens ont gâché plusieurs occasions de but et ont même tiré 2 fois sur les poteaux.
Ici en NBA, Boston passe en demi-finale.
Les Boston Celtics, grands favoris de la série, ont dominé Miami à domicile 118-84 pour conclure leur premier tour 4-1 et passer en demi-finale de conférence Est. Les Celtics, meilleure équipe NBA de la saison régulière, effacent ainsi le souvenir douloureux de leur élimination en finale de conférence Est par les Floridiens l'an passé. Boston va affronter au tour suivant soit les Cleveland Cavaliers, soit le Magic d'Orlando, mené 3-2 dans une série de premiers tours équilibrés. De leur côté, vainqueur au forceps à Dallas dimanche, les Los Angeles Clippers ont coulé à domicile face à Dallas 123-93, subissant la plus large défaite en play-off de leur histoire. Désormais menés 3-2, les Clippers sont au bord de l'élimination et se rendront à Dallas demain pour tenter d'éviter une nouvelle désillusion en play-off.
36 athlètes vont représenter l'équipe des réfugiés aux Jeux Olympiques de 2024.
36 athlètes venus de 11 pays vont composer l'équipe olympique des réfugiés aux JO de Paris dans l'espoir d'apporter sa première médaille à cette entité. Venus du Soudan, Soudan du Sud, République démocratique du Congo, Érythrée, Éthiopie, Cameroun, entre autres, Ces 23 hommes et 13 femmes vont défiler sur la scène juste derrière la Grèce lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet devant toutes les autres délégations.
Page des sports VO Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, le ton monte entre les candidats à la présidentielle du lundi 6 mai. L'ancien opposant et actuel premier ministre Succès Massra a invité ses partisans à filmer les procès-verbaux des résultats électoraux dans les bureaux de vote après publication. Un communiqué de l'Agence nationale des élections interdit cela. L'élection présidentielle semble se jouer entre Succès Massra et le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, les deux s'envoyant des piques. Yacouba Ouedraogo a joint à N'Djamena le politologue Evariste Ngarlem-Toldé.
À quelques jours de la fin de la campagne, et surtout à quelques jours de l'élection, on a pu entendre des tons montée de part et d'autre des candidats. Les concurrents se sont jetés des piques et on a comme l'impression que ce qui était considéré avant comme un simple jeu amical entre les joueurs d'une même équipe est en train de se transformer en un affrontement entre 10 joueurs dont 2 sont les plus favoris.
Qui sont ces deux les plus favoris?
Les favoris sont naturellement les deux chefs de l'exécutif, qui sont le président de transition et son premier ministre chef de gouvernement. Alors les deux ne se sont pas fait cadeau parce que le président de transition n'a pas manqué d'attaquer ses deux premiers ministres, notamment l'actuel, et puis les deux autres aussi l'ont répliqué. Ce qui a fait monter un peu le ton et demander à l'Agence nationale de gestion des élections de rappeler à l'ordre les différents candidats, leur rappeler au respect le code de conduite qu'ils ont unanimement accepté et signé. Donc ça a fait un peu, je ne dirais pas baisser la tension, mais tempérer un peu les ardeurs des uns et des autres.
Et justement, l'Agence nationale de gestion des élections a sorti un communiqué interdisant aux électeurs et aux observateurs de filmer les résultats après dépouillement. Est-ce que cela est légal?
La première différence, c'est l'affichage effectivement des résultats qui figuraient dans l'ancien code électoral et qui, curieusement et miraculeusement, a disparu de l'actuel code. Autre observation, c'est que parmi les candidats, je crois qu'il y a 8 qui sont représentés au Conseil national de transition qui fait figure aujourd'hui de l'Assemblée nationale du Tchad. Ceux-là ont laissé passer ces dispositions, dispositions par rapport à l'affichage des résultats dans les bureaux de vote. Aujourd'hui, c'est quand même curieux qu'on évoque ou qu'on interdise quelque chose qui ne figure pas sur le code électoral. Le code électoral est silencieux qui veut passer des choses. Donc, ce qui n'est pas interdit, mais est autorisé. Ce qui n'est pas interdit, est permis. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on interdise aux représentants des partis politiques de filmer les résultats, d'une part. Et d'autre part, comment vont travailler les états-majors des partis politiques à la clôture des bureaux de vote? Ils sont tenus d'avoir les résultats pour d'abord vérifier de leurs candidats, d'une part. Et même les électeurs doivent aussi avoir confiance au dépouillement des résultats et doivent voir les résultats être affichés au bureau de vote.
Justement, est-ce que ce communiqué entache l'impartialité de l'Agence nationale de gestion des élections?
Absolument. Ça, je ne vous le fais pas dire. Comment l'agence peut attribuer un rôle qui n'est pas le sien? Dès l'instant où cette disposition ne figure pas sur le code électoral, il n'appartient pas à l'agence d'inventer, d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui se trame aujourd'hui. Et tous les Tchadiens aujourd'hui ont l'impression qu'il y aura nécessairement une crise post-électorale par rapport à tout ce comportement qui ne sera pas indépendant des institutions qui ont en charge le processus électoral, notamment l'ANJ.
Le politologue Evariste Ngarlem-Toldé, VOA Afrique, a contacté l'Agence nationale de gestion des élections du Tchad, mais n'a pas eu de réaction concernant la controverse sur les procès-verbaux de la présidentielle du 6 mai.
Votre rendez-vous quotidien, 24/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
La presse guinéenne dans la ligne de mire des autorités de Conakry. Plusieurs médias agonisent sous les restrictions qui leur ont été imposées. Certains se sont organisés sous le nom de résistance. Les médias brouillés avec une série d'émissions télévisées et synchronisées. Une manière de continuer à dénoncer ce qu'ils considèrent comme un recul de la liberté d'expression en Guinée. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Ces salles de rédaction sont vides depuis plusieurs mois. Pour cause, des restrictions les empêchaient de fonctionner normalement. Pour les journalistes, c'est la galère.
C'est ma dignité qui a été bafouée depuis 7 mois. Depuis 7 mois, je pleure. Je pleure parce que je suis non pas sans salaire, mais je n'écoute pas mes auditeurs. Ce pont, ce lien entre la population et...
7 mois de galère le matin quand on se lève. Et parfois, vous regardez vos enfants et qui vous demandent le prix du déjeuner. Vous n'arrivez pas à le faire parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de ressources.
4 médias sont frappés par ces restrictions. Certains ont été retirés du bouquet Canal+. D'autres ont vu leurs signaux brouillés. Une situation que dénonce le syndicat de la presse guinéenne.
Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle du Guinée.
Nous sommes à plus de 500 emplois perdus à Conakry à l'intérieur du pays, justement à cause de ces actions liberticides. C'est malheureux.
Pour se faire entendre, les 4 médias coproduisent une émission intitulée « Les Brouillés ».
Mamadou Diallo est l'un des animateurs de l'émission.
On a mis en place cette émission qu'on appelle « Les médias brouillés » de Guinée et qui passe tous les vendredis pour que cela constitue le front commun de la résistance à la persécution que ces médias vivent. Et c'est pour cela que cette émission existe, parce qu'elle est reliée en même temps par ces 4 médias.
Les autorités guinéennes justifient ces restrictions par des raisons de sécurité nationale. Les associations de presse guinéennes ont sollicité une audience avec le président de la transition. Elles auront enfin l'occasion de convaincre le général Mamadi Doumbouya. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
L'indice de perception de la corruption en Zambie s'est amélioré pour la première fois en 10 ans, selon Transparency International Zambia. Les autorités du pays affirment que leur engagement à renforcer l'état de droit et la justice dans la lutte contre la corruption a porté ses fruits. C'est un reportage de Cathy Short, le récit est de Rosine Monizero.
Le directeur exécutif de Transparency International Zambie, Maurice Niambe, a déclaré à la VOA à Lusaka que l'indice de perception de la corruption est une recherche critique menée à l'échelle mondiale. C'est actuellement la mesure la plus utilisée de la corruption dans le secteur public à travers le monde.
La Zambie s'est en fait améliorée de 4 points en termes de score. Le score de l'International Transparency s'étend sur un continuum de 1 à 100. 0 signifie que vous êtes très mauvais en termes de corruption, le pire du pire. Et 100 signifie que vous êtes un pays très propre en termes de corruption. Au cours des 10 dernières années, la Zambie a tout d'abord connu un déclin, puis plus précisément au cours des 3 dernières années, nous avons eu un score constant de 33 sur 100. Aujourd'hui, nous sommes passés à 37.
Selon Transparency International, l'indice de perception de la corruption, IPC, est utilisé pour classer les pays en fonction de leur niveau perçu de corruption dans le secteur public, tel que déterminé par des évaluations d'experts et des enquêtes d'opinion. L'IPC définit la corruption comme un abus de pouvoir à des fins privées. Un rapport diagnostique du FMI de 2023 sur la gouvernance et la corruption en Zambie indique que la corruption aurait gonflé les coûts de nombreux appels d'offres et projets de construction de haut niveau pendant le mandat du président Edgar Chagwa Lungu entre 2015 et 2021. Le rapport indique également que les énormes ressources financières investies dans les projets d'infrastructures tels que la construction de routes ont été identifiées comme offrant des possibilités de corruption. Outre l'impact sur l'économie, le lobby national des femmes de Zambie, une ONG qui défend l'égalité des sexes, affirme que les femmes dirigeantes en Zambie ont rencontré des obstacles importants à la participation politique en raison de la corruption. Juliette Chibuta en est la directrice exécutive.
Il répond maintenant à ce que nous avons défendu. Nous avons défendu la réduction de la corruption afin que les femmes puissent agir librement dans un environnement sans corruption, car la corruption réduit le nombre de femmes qui participent à la gouvernance et au processus de leadership.
Depuis son élection, le président zambien Hakainde Hichilema s'est engagé à mener une croisade contre la corruption et a promis une tolérance zéro à l'égard de ce fléau. Félix Nkulukusa, secrétaire au Trésor de la Zambie, a réitéré l'engagement de son gouvernement dans la lutte contre la corruption lors d'une récente réunion à Washington.
Nous avons mis en place l'interagence pour le recouvrement des actifs où, en plus de la commission anticorruption, nous avons mis en place une agence pour le recouvrement des actifs. La commission anticorruption, nous avons identifié environ 21 institutions au sein des forces de l'ordre et d'autres dans d'autres domaines qui collaborent pour essayer de récupérer tous les actifs qui ont été obtenus par la corruption.
Les détracteurs du président Hakainde Hichilema ont affirmé que les arrestations pour corruption visent uniquement les opposants politiques. Ils les qualifient de chasse aux sorcières contre l'ancien régime. Le président zambien insiste sur le fait que la lutte contre la corruption n'a pas pour but de victimiser ses opposants politiques. En 2022, les autorités zambiennes ont mis en place le tribunal des crimes économiques et financiers afin d'accélérer le traitement des affaires de corruption. Aucune condamnation n'a été prononcée jusqu'à présent.
VOA Afrique, en direct de Washington.
L'État américain de Floride a adopté une nouvelle loi interdisant la plupart des avortements après 6 semaines de grossesse. En pleine campagne présidentielle, Donald Trump défend le droit des États à réglementer les droits reproductifs, tandis que Joe Biden affirme que l'autorité décentralisée menace la vie de nombreuses femmes et filles. Nathalie Bage relate un compte-rendu de Scott Stern.
Joe Biden fait des droits reproductifs un thème majeur de sa campagne électorale. La vice-présidente Kamala Harris était en Floride le jour où la nouvelle loi sur l'avortement est entrée en vigueur. Parmi les plus restrictives du pays, cette loi a donné lieu à un référendum en novembre prochain visant à inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution de l'État.
This is a fight for freedom.
C'est un combat pour la liberté fondamentale de prendre des décisions concernant son propre corps et de ne pas laisser le gouvernement dire ce que l'on est censé faire.
En 2022, une décision de la Cour suprême a mis fin à la protection fédérale de l'IVG. L'ancien président Donald Trump a nommé 3 des 6 juges qui ont statué sur cette affaire. Ainsi, de plus en plus d'États américains élaborent leur propre loi sur l'avortement. Kamala Harris.
Across our nation.
Dans tout le pays, nous assistons à une attaque totale, État par État, contre la liberté reproductive. Et comprenons bien qui est à blâmer. L'ancien président Donald Trump a fait cela.
Affirmant toutefois que la nouvelle loi de Floride va trop loin, Donald Trump s'attribue le mérite de l'approche du choix de chaque État. Une déclaration de l'ancien président républicain sur son réseau Truth Social.
Plusieurs États seront différents. Beaucoup auront un nombre de semaines différent et certains auront des lois plus conservatrices que d'autres. En fin de compte, tout dépend de la volonté du peuple. Vous devez suivre votre cœur ou, dans bien des cas, votre religion ou votre foi.
Selon Candace Dye, propriétaire d'une clinique de santé reproductive à Fort Pierce en Floride, il y avait une ruée de patientes avant la nouvelle loi sur l'avortement. Elle estime que la période maximale de 6 semaines pour pouvoir avorter est trop restrictive.
Beaucoup de filles ne savent même pas qu'elles sont enceintes avant l'âge de 6 semaines. Elles pensent qu'elles sont encore à 4 semaines parce qu'elles n'ont pas vu leurs règles. Puis nous faisons l'échographie. Il y en a déjà 6 et les patientes doivent être vues 2 jours différents.
Kamala Harris affirme que les alliés républicains de Donald Trump au Congrès souhaitent une interdiction de l'avortement à l'échelle nationale. Mais l'ancien président a déclaré que cela n'est pas nécessaire, étant donné que les États peuvent élaborer leur propre loi sur l'interruption volontaire de grossesse.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com. et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM, Kledou FM Bamako, Golf FM Cotonou, Alfaïda FM Kaolack Sénégal et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui.